30 ans. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 14 mars 2025. L'opposition officielle à l'Hôtel de Ville a dénoncé la recommandation d'un boni de 4 % au salaire du directeur général du RTC par la présidente Maude Mercier-Larouche. Dans un courriel obtenu par le Parti Québec d'abord, Mme Mercier-Larouche reconnaît que plusieurs compétences du directeur général Nicolas Girard demeurent à développer, mais croit que cette prime permettra de conserver sa mobilisation. Une prime injustifiée selon le chef du Parti Québec d'abord, alors que le RTC a enregistré un déficit de 40 millions de dollars.
Face à la performance actuelle du RTC, face au fait qu'on a demandé 60 $ de plus pour l'immatriculation aux citoyens, qu'on donne 10 000 $ de bonification à quelqu'un dont on dit que ses compétences demeurent à développer, ses résultats au questionnaire sont mitigés. Moi, je pense que c'est pas acceptable pour les citoyens.
Le maire Bruno Marchand a souligné qu'aucune décision n'a encore été prise sur l'octroi de cette bonification.
Ça, c'est un classique d'opposition, là. Prendre une lettre qu'ils obtiennent puis dire « c'est ça qui va arriver puis c'est scandaleux ».
Tous les détails dans le reportage d'Alice Zanetta à consulter dans la section Actualité du CKIAFM.org. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a présenté jeudi ses candidats pour la région de Québec dans le cadre de l'élection fédérale qui pourrait être déclenchée d'ici la fin du mois. La députée de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, sera dans les rangs, ainsi que Simon Bérubé et Valérie Savard, qui tenteront de remporter les circonscriptions libérales de Québec et Louis Hébert. En conférence de presse, le chef bloquiste a été questionné sur les enjeux locaux, comme le projet d'expansion de transbordement de conteneurs du port de Québec dans Beauport par QSL, un projet auquel il s'est fermement opposé par le passé.
J'ai une ouverture à ce qui serait bien conçu avec une absence d'impact environnemental. Je reste à être convaincu de ça, mais au moins, il y aura une conversation, ce qui n'existait plus.
Demain, un rassemblement et un dîner collectif soulignent la Journée internationale contre la répression policière. Les organisateurs de cet événement veulent dénoncer les pratiques de profilage racial, social et politique menées par le service de police de la Ville de Québec. Le tout débute à midi près de l'ancien poste de police au 275 rue de la Maréchaussée par la présentation de témoignages et analyses des différents types de profilage et de répression exercés par le SPVQ. L'artiste Michel Nadeau présente ce soir et demain à cœur ouvert aux ateliers du Réacteur, situés au 731 rue Saint-Vallier-Est. L'exposition célèbre l'art, la résilience et la générosité, tout en soutenant la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Michel Nadeau, qui a vécu un infarctus avec mort subite, veut aider d'autres personnes à obtenir, comme lui, une seconde chance. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Ce furent de belles journées de printemps au cours desquelles l'hiver du mécontentement des hommes dégelait aussi assidûment que dégelait la terre et la vie sortait de son sommeil en s'étirant doucement. Un jour, alors que ma tête de hache s'était détachée et que j'avais coupé puis enfoncé à coups de pierre une cale en jeune noyer avant de plonger le tout dans un trou d'eau pour faire gonfler le bois, je vis une couleuvre filer, se mettre à l'eau puis rester immobile sur le fond. Apparemment, sans aucune gêne, tout le temps que je restais sur place, soit un peu plus d'un quart d'heure. Peut-être n'avait-elle pas encore totalement émergé de sa torpeur hivernale. Il me vint à l'esprit que, pour une raison semblable, l'homme demeurait en son actuelle condition vile et primitive, mais que, s'il pouvait sortir, sentir, monter en lui l'influence et de l'élan du printemps, il s'élèverait nécessairement vers une vie plus haute et plus éthérée. J'avais déjà vu des couleuvres sur mon chemin par des matins de givre, avec des sections de leur corps encore engourdies et raides, attendant que le soleil les dégèle. Le 1er avril, il plut, et l'eau fit fondre la glace au cours de la matinée très embrumée. J'entendis une oie batifoler sur l'eau en caquetant comme si elle eût perdu ou bien comme si elle eût été l'esprit même du brouillard.
Rapide joie.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler d'identité ou d'accidentité, si on veut. On a notre invité aujourd'hui, c'est Rajul, qui va nous parler de son dernier livre qui vient de publier, L'accidentité. Avant ça, ben, on avait, comme d'habitude, là, Richard Séguin. Le chemin souterrain, je l'ai fait jouer justement pour Rajul, parce que c'est le chemin souterrain Taureau, et faisait partie de ce qu'on appelle le chemin souterrain, qui était, en fin de compte, c'était un groupe de gens qui étaient des passeurs, qui essayaient de faire sortir les esclaves noirs des États-Unis, puis les emmener pour se rendre au Canada où l'esclavage avait été aboli. Avant ça, j'ai quelques lectures, quelque chose que j'ai vu cette semaine. Il y en a eu l'éclipse de lune cette nuit. Je me suis levé là, vers 4 heures pour voir la fin de l'éclipse. Je ne l'ai pas vu au complet, mais c'est vraiment un beau spectacle. Mais pour ceux qui veulent en voir une autre, il y en aura une autre. Cette fois-ci, c'est une éclipse solaire partielle qu'on aura... attendez un peu, c'est le 29 du mois. Pour l'observation de l'autre équipe du mois de mars, une éclipse partielle de soleil se produira le 29 du mois prochain. Il faut donc prendre des précautions d'usage. Alors, surtout que c'est une éclipse partielle, moi, je me suis déplacé pour voir l'éclipse totale. Quand l'éclipse est vraiment totale, on a quelques minutes où on peut l'observer à l'œil nu, c'est pas dangereux. Mais autrement, aussitôt qu'il y a un peu de soleil, c'est dangereux, très dangereux même. Alors, il faut ressortir nos lunettes qu'on avait d'éclipse, puis les tester. Là, il y avait un bon article, pour ceux que ça intéresse, dans Le Devoir de mercredi, le 12, mercredi dernier, à la page A7. C'est un texte de Pierre Chastenet. L'auteur est astronome et professeur titulaire à l'Université de Montréal. Le titre, c'est « Deux éclipses » pour le prix d'une en mars. Celle d'hier, c'était une éclipse de lune, une éclipse lunaire. Un autre texte ici qui va intéresser mon ami, mon invité, parce qu'on se connaît par ce qu'il travaille à la librairie La Liberté, puis on a des belles discussions ensemble, souvent, quand que je vais à la librairie. Et c'est un texte de Catherine Lalonde, dans Le Devoir de mardi, le 11 mars, imprimer un livre à la fois au Québec en couleur. Pour éviter les surplus d'impression, Imprimerie Gauvin investit 6 millions de dollars dans de nouvelles machines. Comment rendre le marché du livre d'ici plus écologique? Imprimerie Gauvin à Gatineau s'est posé la question il y a quelques années et il a répondu concrètement en investissant 6 millions de dollars en équipement maintenant tout neuf. Pourquoi? Aider les éditeurs qui le veulent à cesser de surimprimer. La nouvelle ligne d'impression à jet d'encre en couleur permet une première au Canada, permet d'imprimer au Québec beaucoup ou très peu ou juste selon les besoins, même un seul livre à la fois, sans que la facture augmente inconsidérément. On s'est demandé comment on pouvait aider notre écosystème à pilonner moins. Parce que ça, c'est le tabou ultime et ça laisse une bonne empreinte carbone, explique Patricia Latour, directrice générale adjointe et copropriétaire. La manière classique pour les éditeurs de faire imprimer toujours plus de livres que nécessaire. Que ce soit pour nourrir de belles piles dans les librairies. Remarquez à quel point votre œil est davantage attiré par les tas de bouquins plutôt que par ceux sagement rangés sur les tablettes dont on ne voit que l'épine ou qu'un exemplaire. Ou pour bénéficier de meilleurs tarifs d'impression, les plus gros tirages permettant d'avoir un prix plus économique à l'unité. Là, on arrive avec une solution couleur pour les éditeurs avec des prix très concurrentiels pour les petits tirages, même pour faire un livre à la fois, hein, chérie. Alors, il disait que eux autres, ça revient même d'imprimer 1000 fois le même livre ou d'imprimer 1000 livres différents dans la même journée. Ça revient au même coût. Alors, c'est une façon nouvelle de voir l'impression, en fin de compte, l'édition plus écologique. Alors, c'est dans Le Devoir de mardi. Il y avait aussi dans le devoir d'hier, j'ai trouvé ça, ça m'a frappé, c'est dans le devoir de jeudi 13 mars, page B1, une coupe à blanc qui fait voir rouge. Une coupe à blanc réalisée cet hiver à la demande des municipalités a eu raison d'une forêt mature à la lisière du village Mont-Saint-Pierre en Haute-Gaspésie. Le bois abritait un camping qui devra rester fermé cet été et sa destruction soulève la grogne dans la région. C'est que c'était à Mont-Saint-Pierre, il y avait un camping qui était magnifique près de la route à Mont-Saint-Pierre, derrière la montagne. Et pour une raison que je ne saisis pas, la ville a autorisé une coupe à blanc. Alors, le camping n'existe plus. Ça a fait réagir les gens. Là. Madame Laflamme a travaillé durant 23 étés au camping du Mont-Saint-Pierre. Cette année, elle n'y travaillera plus, pas puisqu'il n'ouvrira tout simplement pas. Elle est originaire de la région et gère mal la coupe à blanc qui a transformé le visage de son village. Alors, ça, il faudra qu'il y ait un suivi. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on fait des coupes à blanc dans des villages comme ça. Il y a le dernier Philosophie Magazine que je vous recommande. Ça, je l'ai eu hier, il vient d'arriver en kiosque. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est un numéro, je dirais, intéressant pour les simplicitaires. Qu'est-ce qu'un rapport sain à l'argent? Il y a plusieurs bons textes que je vous recommande dans le dernier Philosophie Magazine. Et évidemment, il y a le 1 à qui appartient la nature. Et il y a un texte de Jean-Jacques Rousseau à page couverture que je vais demander à Radjoul de lire tantôt. Là. Alors, ça aussi, c'est une question qui est très pertinente, puis c'est lié avec notre discussion d'aujourd'hui. Donc, le dernier numéro du 1. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, il y aura un café philo. Je n'ai pas assisté à ce café philo-là encore. Je vais peut-être essayer d'y aller. C'est mardi prochain, le 18 mars, au Café Motas. Atelier, ils appellent ça eux autres ateliers philosophiques. Venez vivre l'expérience d'une discussion philosophique avec un animateur. Au programme, un thème choisi le soir même par les participants, des réflexions, du plaisir. Arrivée possible à partir de 18 heures. Pour commander breuvage et pâtisserie. Alors, c'est mardi prochain de 18h à 21h. Et moi, je vous invite au Café Philo que j'anime vendredi de la semaine prochaine, pas ce soir, mais vendredi de la semaine prochaine, à la librairie La Liberté. Alors, on prend une courte pause musicale, puis après ça, on revient avec Radjoul pour parler de l'accidentité.
Bella galanta si marida tan lontan dal suo paese, la piauna sposa giù l'indoman la chita lì. Alla fa il soldato setani, dopo setani ne riva lì. Ad ai peri in talla porta, della Fiorenza venì dormì. Sua mamma dalla finestra, della Fiorenza ie papì. La Fiorenza le sta rubeia, dal bel moro sarà sì. Campene la mia spadina, fu nel pugnal d'Arzè. Mina vaga gire lo mondo, e la Fiorenza la troverè.
Bel galantare andà la guerra, per setanna turna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì.
La trovai tra le lavandere, cal lavavo so fardel. Dime un po' voi lavandere, come se c'ama sto castel. Sto castel alle del bel moro,
del bel moro sarasì. E se tani che Fiorenza, e se tani caiedri.
Per galantare andare la guerra, per se tanna turna pi. E la povera Fiorenza restai senza marì.
Il bel moro alla finestra da lontan la vis venì. E i pensa bella Fiorenza, dai un nom del vos paì. Fei e festa prunte la tavola, fei del pane e del buon vin. Di a disne bella Fiorenza, di a disne cuma per me. Quan le stai mita la tavola,
bon, mais mon CD commence à être fatigué. Je l'aimais trop. Il faudrait que je le remplace. C'était un extrait de la pièce Il Moro Saraceno de Andrea Capezzuoli. C'est une marche, des marches de travailleurs. Moi, j'aime bien beaucoup l'accordéon, puis l'accordéon était un instrument qui servait pour les marches de travailleurs, les marches de contestation, etc. Alors, voilà, c'était un extrait de... bienvenue, Radjoul.
Merci à toi, Jacques, de m'avoir invité.
Avant de commencer l'entrevue, juste... parce que le livre est beaucoup relié à ton parcours personnel. Tu es au Québec depuis 10 ans, mais tu es d'origine du Togo.
Togolaise, oui.
Togolaise. Et tu es étudiant, je pense, à l'Université Laval.
Doctorat en sciences politiques.
Doctorat en sciences politiques. Et puis, d'après les lectures aussi, je pense que tu t'intéresses aussi à la philosophie un peu.
Oui, j'ai un parcours très multidisciplinaire. J'ai une formation initiale en sociologie politique. Ensuite, j'ai fait une maîtrise ici à l'Université Laval en études internationales, qui est un mix de sciences politiques, de droit et d'économie. Et mes intérêts disciplinaires s'étendent évidemment à la philosophie, à l'histoire, à l'anthropologie, et qui sont les différentes disciplines que je mobilise pour mon travail de doctorat en sciences politiques en ce moment, qui a une dimension écologique et en même temps cosmopolitique.
Puis là, tu as écrit un livre qui vient de sortir. J'ai été au lancement, je pense, hein, la semaine dernière.
Oui, le 5 mars.
J'ai commencé à lire, c'est très dense comme texte, là. Mais c'est bien écrit, c'est comme un peu presque de la poésie, de la prose poétique. Il y a beaucoup de chaque, il faut lire, ça prend beaucoup de concentration parce que des fois, chaque phrase, il y a plusieurs idées dans la même phrase, puis il y a même chaque mot, des fois, il y a des mots que tu as créés ou des mots sophistiqués. Mmh. Que là, pour garder le fil, ça prend beaucoup de concentration.
J'espère que ce commentaire ne va pas rebuter les lecteurs éventuels. Parce que j'avoue, évidemment, que ma prose est très poétique parce que je suis rentré en littérature par la poésie, tout simplement. Je suis rentré en littérature par Arthur Rimbaud, et je mentionne beaucoup Arthur Rimbaud dans le texte, et aussi Baudelaire, Rousseau. Donc, le souci de bien écrire a toujours été comme une sorte de hantise chez moi. Et après ma fréquentation des philosophes français de la seconde moitié du XXe siècle, comme Derrida, Foucault ou Deleuze, n'a pas beaucoup aidé. Mais il y a un effort quand même de ne pas me rendre totalement illisible qui reste très prégnant dans ce texte. Il est assez abordable. Quand on franchit les premières lignes. Et j'aime beaucoup... j'ai un admirateur, une personne que j'admire beaucoup, qui a dit un jour que quand on ne comprend pas, parfois il faut juste se fier à la musique de la langue. Je pense que cette musicalité de la langue est aussi quelque chose qu'il faut rechercher. Pour moi, ça fait plaisir. Tu sais, Roland Barthes parlait du plaisir du texte. Il y a quelque chose comme donner du plaisir au lecteur. Et hier, j'étais en librairie, j'ai été interpellé par une cliente. Elle est tombée sur moi par hasard. Elle est venue acheter tous mes livres. Elle dit « Ah, j'ai lu quelques extraits de ton précédent, Créoliser le Québécois. » Et je me suis rendu compte que tu écris magnifiquement bien. J'aime beaucoup ton style. Et là... en ce moment, ça fait trop. Il y a un autre livre collectif auquel j'ai participé, un collectif poétique qui s'appelle Arracher les frontières. Et du coup, elle avait acheté tous mes livres, elle avait quasiment acheté en doublon parce qu'elle veut l'offrir à des amis. Et pour le style, vous voyez?
Ben oui, c'est un style spécial. Moi, je trouve ça très beau, mais ça demande un effort.
Oui,
ça demande un effort. Ben c'est comme de la poésie un peu, qui demande un effort là, de lire de la poésie. Là, c'est la même chose. Bon, et le lien, c'est que l'accidentité, c'est relié à ton parcours à toi, là. Ton départ du Togo, là, tu es au Québec depuis 10 ans, t'a fait réfléchir sur l'exil, l'identité, l'origine d'où on vient. C'est ça, l'accidentité, ça veut dire qu'on a une identité qui est accidentelle. C'est une loterie, puis dépendant de où on est, on dit que c'est notre identité.
Tout à fait. C'est une proposition conceptuelle que je fais parce que je me rends compte que le mode d'existence actuel de l'identité, c'est d'être en crise. C'est les nations occidentales se disent en crise d'identité à cause de la mondialisation, de la globalisation, de l'immigration qui déstabilise les identités, de la présence de certaines religiosités, de formes culturelles un peu différentes qui peuvent amener à déstabiliser les identités collectives, mais les identités les plus solides comme l'identité nationale française ou l'identité nationale américaine aujourd'hui qui est très interrogée par l'immigration et le fait que bientôt les populations issues de l'immigration vont devenir majoritaires dans ce pays-là. Ça pose à se poser des questions par rapport à « Who are we ?» comme disait Samuel Huntington, « Qui sommes-nous aux États-Unis » Et la même question se pose aujourd'hui au Canada et un peu partout. Toutes les nations européennes se posent cette question-là. Et à l'échelle des individus également, les gens se posent la question. Tu sais, on va voir beaucoup des psychologues pour essayer de comprendre notre identité, de s'interroger. Et moi, j'essayais de réfléchir à ça parce que, comme vous le disiez très bien, je me suis rendu compte que ça fait presque 10 ans que j'habite au Québec et j'ai la spécificité que je ne suis plus retourné chez moi depuis. Donc, je me suis rendu compte que j'étais un peu comme Ulysse, le héros de Homère, le héros de l'Odyssée, qui était comme perdu en mer, en exil, depuis... presque 10 ans, et qui voulait retrouver son île natale, Ithaque. Et moi, comme je suis en train d'entreprendre une démarche de retour, j'ai essayé d'interroger ce que la distance et le temps qui s'est intercalé entre moi et mon pays d'origine, qui normalement me confère mon identité, mon place dans le monde, qui me structure, ce lieu de naissance qui nous donne cette identité, comme un déjà acquis. Et je me suis rendu compte que tout ça rentrait en crise. Parce que tout d'abord, cette idée de nostalgie, c'est la nostalgie, c'est un mot qui est inventé plus tard, hein, qui est inventé au 19e siècle en Suisse, pour décrire ce qu'a vécu l'expérience d'Ulysse dans l'Odyssée. C'est une sorte de maladie du retour, tu vois, le mal du pays. C'est le mal du pays que la nostalgie. Et je ne me sentais pas très nostalgique, première chose. Je ne me sentais pas réellement en exil parce que j'ai remarqué qu'il s'est passé toute une série de déplacements et de changements très profonds qui font qu'il y a comme si les lieux... de toute façon, il n'y a pas de coupure nette avec le pays d'origine désormais pour des gens qui connaissent l'expérience de la migration parce qu'il y a les téléphones mobiles, il y a les appels instantanés qui font qu'on est quasiment en même temps là-bas et ici. Donc la séparation entre l'ici et l'ailleurs, tu sais, quand Ulysse est sur son bateau ou quand il est sur l'île de Gigy ou qu'il est sur l'île des Phéaciens, pour lui, Ithaque, c'est à l'autre bout. Il n'a pas de contact avec Ithaque, il n'a pas de contact avec les gens d'Ithaque. Ça, nous, on peut le faire aujourd'hui grâce à la technologie. Et tout ça amène à repenser ces questions-là. Et c'est dans cette réflexion de ce retour impossible. Parce que pour moi, le véritable mal, c'est pas le mal du pays, c'est le mal du retour. Parce que le retour est perdu d'avance. Mais le retour peut devenir extrêmement intéressant si on prend le temps de savourer le retour. Parce que la hantise de retourner pour retrouver celui qu'on est, c'est, moi je dis, Ulysse, c'est l'homme de « deviens celui que tu es ». C'est l'homme du « deviens celui que tu es » déjà. Alors, c'est Ulysse, être parti de chez lui, lui a privé de son identité, et sa quête est de retourner pour retrouver son trône comme souverain de l'île d'Ithaque, pour régner sur le cœur de sa femme, sur sa famille, c'est-à-dire son fils Télémaque qui attend, et retrouver sa souveraineté. Et je me sentais pas du tout dans cette posture-là, parce que pour moi, retourner au pays, c'est aller retrouver un monde qui a totalement changé. Les souvenirs avec lesquels je suis parti ne seront plus valables. Les lieux auront changé. Les personnes, ma mère aura pris des plis, le pli de l'âge, 10 ans. Ça passe pas, ça va passer avec délicatesse sur son visage, j'espère. Mais elle s'est dégradée en santé. Et moi, je commence à pousser des cheveux blonds. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est tout cela qui m'a amené à réfléchir de façon beaucoup plus radicale la question de l'identité. Et en mettant à distance, pour le coup, quand on met à distance tout ce fantasme, toutes ces illusions associées à l'origine, au pays natal, le lieu de naissance, parce que le monde dans lequel on vit, tu nais quelque part, ça te confère ton identité. C'est ce qu'on appelle le droit du sol, ou alors le droit du sang, le fait d'hériter une histoire de ses parents. Donc il y a ces ancrages-là qui sont comme donnés comme des a priori qu'on n'interroge pas, que j'essaie d'interroger. Et c'est ça qui m'a amené à faire cette proposition alternative de ce que j'appelle l'accidentité. L'accidentité, c'est de considérer que tout ce qui nous structure, le fait d'être né quelque part, je ne l'ai pas choisi. Je suis togolais, pas par choix. J'aurais, en 2004, migré en France, mais comme je l'ai fait presque 10 ans plus tard, c'est au Canada que j'ai migré. Et ça dépend tellement de contingences. Et d'avoir été au Canada, ça fait de moi un homme différent que celui que j'aurais été si j'avais été en France en 2004, et ainsi de suite. Donc, ce sont la somme de tous ces non-choix, de tous ces piétinements, de tous ces hasards, comme vous le disiez, la loterie génétique, tout ça qui font de nous ce que nous sommes. Et dans tout ça, nous n'avons réellement pas beaucoup de pouvoir, malheureusement. Ce qui fait que ça reste très contingent. Le mot-clé derrière l'accidentité, c'est la contingence, plutôt que la nécessité. C'était pas écrit d'avance. Et à partir du moment où c'est pas écrit d'avance, l'origine peut être démultipliée. Le lieu de naissance peut être démultiplié et on ne doit pas s'interdire de devenir autre chose. Je suis devenu Québécois par la force des choses, à force d'habiter au Québec, parmi les Québécois. Je me suis approprié de l'histoire de ce peuple et je m'identifie aussi comme Québécois. Donc ça enrichit mon expérience du monde, ça enrichit mon identité.
On pourrait dire que le livre, c'est une réflexion sur la géographie de l'identité. Parce que c'est beaucoup une réflexion sur les lieux, sur le déplacement, le nomadisme, l'errance. Parce qu'on a tendance à s'identifier d'où on vient, dans le fond. Mais là, toi, tu creuses ça, là, cette idée-là. Oui.
Le mot que j'utilise, exactement, un peu comme toi, là, je parle dans le texte l'émotion d'espace, d'émotion d'espace. En fait, ce sont des émotions d'espace. Et les émotions d'espace structurantes dans notre monde d'aujourd'hui, ce sont des émotions de type sédentaire. Parce que nos institutions, l'État lui-même est une institution sédentaire. Et toutes les institutions que produit l'État sont des institutions sédentaires, c'est-à-dire la frontière, cette idée d'une identité enracinée dans un territoire bien délimité et enclos. On reviendra plus tard à Jean-Jacques Rousseau, et avec des frontières délimitées, qui fait recouper... tu sais, il y a une façon, même physique, corporelle, d'être Québécois. Même la façon de marcher. dans la façon très spécifiquement américain dans la façon d'être, de se déplacer même dans l'espace. Moi, je parle de corpogenèse. Il y a de la corpogenèse, il y a de la sociogenèse et de la psychogenèse, la façon des identités. Nos identités sont produites par l'État parce qu'il y a des institutions, il y a des appareils que les États produisent pour ça. Ça s'appelle l'école, ça s'appelle l'instruction. On vous transmet une histoire, on vous transmet des émotions, on fait agir sur vous un certain passé qui est un récit pour que vous incorporez les plis de cette identité-là. Donc, nous sommes nationalisés, en fait. Nous sommes issus de processus de nationalisation parce que, en fait, la définition classique de l'État, qui est celui du monopole de la contrainte physique légitime, laisse de côté une dimension qu'un sociologue américain que j'aime beaucoup, Roger Brubaker, lui, il parle de monopole de la violence symbolique des États. Dans la capacité à produire ça. Bourdieu, le sociologue français, poursuit très bien ces réflexions-là en disant « L'État, il faut faire attention, c'est un fétiche qui produit beaucoup de symboles. » Tu sais, même la langue qu'on parle, la façon de la parler, l'État pousse son pouvoir jusque-là, jusqu'à notre façon de parler. Donc, nous sommes fabriqués comme ça. Et ces émotions d'espace-là, moi, je mets une autre émotion d'espace qui pourrait rentrer en contradiction ou en tension avec l'émotion d'espace sédentaire, c'est l'émotion d'espace des nomades. Ce qui est intéressant avec les nomades, c'est qu'ils font des choses différentes avec l'espace. Le nomade, c'est celui qui est de passage, c'est celui qui est en transit, c'est celui qui est en escale. Chez lui, il n'y a pas de pays d'origine. Parce que il n'y a pas de préférence exclusive pour un territoire. Ça, c'est le sédentaire qui fait ça. Je suis né là, je développe une préférence. Le nomade, pour lui, la totalité du monde devrait lui être ouverte pour qu'il puisse à jamais vaquer, errer, et faire transhumer et habiter, embrasser la totalité du monde. Et c'est aujourd'hui, on est rentré dans le monde, Édouard Glissant, qui est un penseur caribéen que j'admire beaucoup, explique dans sa théorie du tout-monde cela. C'est-à-dire, nous sommes rentrés à une phase de l'histoire de notre humanité où il faut en finir avec les territoires ataviques, le petit territoire de notre identité nationale, où on se morfond soi-même d'une identité avec ses douleurs, ses victoires, parfois ses vaines gloires qui appartiennent à un passé révolu. Et embrasser la totalité du monde. Parce que la totalité du monde, elle est là. Nous sommes interconnectés aujourd'hui que jamais. Il y a quasiment toutes les nationalités du monde au pas de ta rue désormais. Il suffit de sortir de chez toi que tu croises toutes les nationalités du monde. C'est-à-dire, dans mon texte, j'insiste sur le fait que l'ici est dans l'ailleurs et l'ailleurs est dans l'ici. Il y a une sorte de compénétration des espaces qui nous oblige à démêler et à repenser à nouveau frais la façon dont nous nous enracinons et la façon dont nous nous inscrivons dans l'espace et la façon dont nous faisons sens du monde et notre relation avec ce qui n'est pas nous.
On va prendre une petite pause musicale. Pour retour, là, on va embarquer dans le concret. Là. On va parler de la citation de Jean-Jacques Rousseau puis l'idée de nation. Là.
D'accord.
Alors, on pause musicale.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Nina Simone, I'm feeling good. C'est très proche de ce qu'on se parle, cette chanson-là, parce qu'elle dit « It's a new dawn, it's a new world ». Elle est dans elle dit « We leave the old world ». C'est comme si elle est, comme tu dis, là, dans l'actualité, dans le présent, dans le, elle est pas figée dans le...
Je peux vous donner une facture philosophique à cette pensée. Ça me fait penser à Cornelius Castoriadis, qui est le grand penseur de l'imagination sociale, qui fait une distinction entre ce qu'il appelle l'imaginaire institué et l'imaginaire instituant. L'imaginaire institué, c'est l'état-nation, les formes dans lesquelles nous habitons, dans lesquelles nous nous débattons. Et il y a ce qu'il appelle l'imaginaire instituant. C'est-à-dire, c'est des formes possibles à venir. Et donc... Aujourd'hui, nous sommes comme un peu en tension ou en déficit. On sent que notre imaginaire institué de formes frontières, états, structures telles que nous les pensons, sont déficitaires ou en tout cas prises en défaut par notre brûlante actualité. L'actualité du tout monde, l'actualité de la mondialisation, l'actualité de la crise écologique qui est là, l'actualité des réfugiés qui, par millions, hein, aujourd'hui sont à la frontière des pays riches. Et cette tendance-là ira à s'amplifier. Donc à partir de ce moment, ça pose la question de trouver un nouvel imaginaire et cet imaginaire instituant-là qui est un déjà-là mais qui reste en même temps à inventer, que nous devons actualiser sous forme d'institution. Dans le texte, moi je parle de trouver des institutions qui nous donnent un droit au futur. C'est-à-dire, dans la forme moderne de l'État-nation, nous avons réfléchi, en cela, ça ne nous a pas beaucoup éloigné hein, du Moyen-Âge, et de l'Antiquité. C'est des formes politiques ou des institutions politiques qui étaient toujours tournées vers le passé. Les gens du Moyen-Âge regardaient avec beaucoup d'admiration le passé. C'est comme ça qu'ils inventent la Renaissance, d'ailleurs, en essayant de faire revivre le passé dans le présent. Et Robespierre, ceux qui font la Révolution française, quand les révolutionnaires français disent « nous allons faire une république », ils ont la République romaine dans le rétroviseur. Donc en fait, on a toujours regardé vers le passé, vers les âges d'or, pour essayer d'inventer des institutions qui soient le reflet, pas totalement toujours exact. Quand les révolutionnaires américains réinventent la république et la démocratie, ils regardent la Rome antique. D'ailleurs, c'est pour ça que vous regardez même dans la toponymie américaine, Philadelphie, Cincinnati, c'est des généraux, c'est des référents, des références au passé romain et aussi un peu à la Grèce par rapport à la démocratie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la devise des États-Unis, c'est en latin, la formule, et pluribus unum, de plusieurs un. Moi, je pense que c'est la formule par définition du processus d'état-nationalisation, si tu veux, de nationalisation des populations, ce que je décrivais tout à l'heure. Là. C'est-à-dire, il y a toujours au départ une diversité, une pluralité, et le processus national s'enclenche, et à la fin de ce processus, la résultante, c'est de créer un tout homogène. en tout cas quelque chose qui s'entretient, la formulation exacte que j'utilise dans mon texte, c'est de fiction d'homogénéité. Parce que dans la réalité, ce n'est pas réellement homogène. Il y a des Québécois originaires d'Écosse, il y a des Québécois d'origine juive, il y a des Québécois de différentes origines. Mais tant qu'on, quand on adhère au récit québécois, c'est qui agglutine tout ça, c'est cette fiction-là que nous formons un tout homogène. Même si on sait que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, par après, se posera la question de ceux qui viendront après, ce qu'on appelle ici beaucoup les nouveaux arrivants, de est-ce que ces gens-là adhèrent à la fiction ? Et jusqu'à quel point ils n'adhèrent pas. Du coup, va rentrer le procès en intégration. Ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent pas s'assimiler. Bon, tout ça, c'est, vous voyez, ce sont des principes qui sont structurants dans la forme politique qu'on appelle l'État-nation moderne. Donc, ce que j'essaie de réfléchir, c'est à une forme politique qui soit pas nécessairement fondée sur des fictions d'homogénéité, mais qui sont des fictions qui intègre l'hétérogénéité. Et la façon dont le récit se compose, dans un cas comme dans l'autre, va différer légèrement. Parce que dans les fictions de type homogène, c'est-à-dire l'État-nation, on peut parler de l'ethnie aussi, hein, l'ethnie, la forme ethnique aussi a cette même pulsion-là, ce même principe, c'est l'idée que le récit doit être un récit centripète. C'est un récit qui tire vers le centre, qui tire vers l'unité. Alors que nous rentrons dans des sociétés où on a de plus en plus une confrontation des récits qui ne s'homogénéisent plus. Tu sais, des gens arrivent avec des histoires migratoires, des histoires coloniales, des histoires de guerre, des choses comme ça, qui ont du mal à se couler dans le récit qui est déjà établi de l'histoire du Québec, de comme ça a été écrit jusqu'à une époque récente. Et d'ailleurs, cette histoire du Québec, on ne peut pas avoir la même histoire si on commence avec Cartier. C'est pas la même histoire si on commence avec Cartier. C'est pas la même histoire si on commence avec Champlain. C'est pas la même histoire si on commence avant Cartier. Si on commence avec les Premières Nations, ça donne un autre Québécois, un autre Québec. Donc, ça veut dire que c'est de la puissance fictionnelle. Et le philosophe Paul Ricoeur parle des identités comme... parle d'identité narrative. Bon, c'est le modèle auquel je souscris en rajoutant un peu ce que moi j'appelle l'identité performative. Parce qu'il faut toujours le performer pour que ça se maintienne. Donc, pour ce qui est des fictions de type hétérogène que j'essaie de défendre dans ce texte, ça va être davantage des récits plus centrifuges. Donc composés avec des récits centrifuges, avec la polyphonie, la polyvocité qui démultiplie des récits. Et comment est-ce qu'on arrive ? Bah, c'est comme, si vous voulez, si on va faire une référence à la littérature... les spécialistes du Moyen-Âge font une distinction entre les vies parallèles de Plutarque et la Bible. Est-ce que vous la voyez, la différence ? Elle est toute simple. La Bible, c'est plusieurs biographies d'un seul personnage. Le Nouveau Testament, j'entends. Alors que les vies parallèles de Plutarque, c'est plusieurs biographies de plusieurs personnages. Mais pourtant, on a des vies parallèles. Ça donne une œuvre toute cohérente qui a sa cohérence aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là que nous sommes requis de penser aujourd'hui parce qu'autrement, on sera pris dans des confrontations sans fin parce qu'on va dire « Ah, mais les nouveaux arrivants, ils ne veulent pas s'assimiler, ils ne veulent pas s'intégrer et ils ramènent tout leur désordre, toutes leurs identités, tout ce qui fait de leur être quelque chose de singulier. C'est ce qui fait d'eux une forme dans la diversité humaine. » Tu vois, c'est-à-dire, on ne peut pas. Et ça, le récit homérique, l'Odyssée, l'illustre très bien. C'est quand Ulysse se rend avec ses compagnons sur l'île des Lotophages, l'épisode de l'île des Lotophages. C'est une île que les gens se sont amusés à situer un peu en Afrique du Nord, où ils ont un fruit là-bas qui s'appelle le lotus ou le lotus, selon les traductions. Donc, quand le nouvel arrivant arrive, on lui donne à manger le fruit du lotus. En fait, c'est le fruit d'oubli. Ça lui fait oublier son passé, son nom, jusqu'à qui il est. Et c'est la condition sine qua non pour devenir un lotophage. Donc, à partir du moment où tu auras tout oublié de ce que tu as été, tu deviendras comme nous. Tu seras exactement comme nous, un lotophage. Et Ulysse s'enfuit évidemment de cette île-là. Fuyons, fuyons les îles l'autophage.
c'est un appauvrissement, dans le fond.
Tout à fait.
Je voudrais qu'on revienne avec... on parle de Jean-Jacques Rousseau qui, lui, a réfléchi sur aussi, quand on parlait de géographie, de l'identité, l'appropriation du territoire. Alors, il y a une citation dans le 1 que je vous parlais tantôt, là, « Qui appartient à la nature » de Jean-Jacques Rousseau, que j'aimerais que tu nous lises.
C'est un extrait des discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ça a été publié par Rousseau en 1755. Ça dit ceci. « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, que de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux et comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. »
C'est magnifique, hein?
C'est magnifique. Bah, Rousseau décrit magnifiquement, avec son style inimitable, un processus de territorialisation. Bon, Locke dira plus tard, avec Locke, on parle beaucoup d'enclosure, c'est-à-dire cette façon de s'approprier ce qui, dans le droit à l'époque, on appelait le res communis, c'est ce qui appartient à tous. C'est le dernier mot, la terre n'est à personne. Donc ça veut dire la terre appartient à tous. Donc on est rendu à quelque chose que, bon, chez Glissant, ça va s'appeler le tout monde. L'idée qu'il y a une totalité monde et qu'en tant que citoyen terrestre, la terre est notre lieu d'habitation à tous. En revanche, il subsiste dans ce monde-là des lieux, des politiques d'inhabitabilité. L'écologie. Tu sais, l'écologie, c'est quoi? C'est une sorte de colonialisme du futur, en fait. C'est-à-dire, nous rendons le futur impossible pour ceux qui viendront. Ils n'auront pas droit à un futur qui ait les mêmes qualités que nous, parce que nous empiétons sur leur droit d'avoir droit à une atmosphère respirable, à une terre qui puisse fournir de quoi subsister. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant que de dire que ces façons d'enclore des petits territoires, de faire recouper sur ça des petites identités exclusives du reste. Je ne dis pas qu'on doit tous se fondre dans une sorte de magma informe. Je tiens à la diversité. Je tiens à la diversité des formes de vie, des formes culturelles, des formes esthétiques. Chacun a le droit d'esthétiser sa vie. D'ailleurs, tout le premier passage, toute la première partie de mon livre est consacrée à ça. C'est-à-dire que si Ulysse, je m'identifie un peu à Ulysse, si Ulysse ne retourne pas à Ithaque, parce qu'il y a trois périls qui le menacent s'il ne retourne pas, c'est soit il devient, on lui propose soit de devenir un dieu, Circé, Calypso de déchoir pour devenir un moins qu'humain, il transforme ses compagnons en cochons pour qu'ils arrêtent de vouloir retourner, en fait, transformer en animaux, ou alors prendre le fruit de l'autophage et oublier qui on est. Un fruit d'oubli. Et l'autre façon que moi je préconise, c'est d'esthétiser sa vie. C'est-à-dire, si on ne rentre pas, c'est de profiter du voyage. Ça, c'est ce qui manque le moins dans le récit homérique. C'est-à-dire, Ulysse, à aucun moment, ne semble pas profiter de la vie. Ne semble pas profiter de l'Odyssée. Il est toujours en train de pleurer, il se retire devant la mer, il regarde la mer au loin, en pensant à son Ithaque perdu, et il se met à pleurer jusqu'à ce que la déesse n'en puisse plus. Elle lui dit, ok, va-t'en, tu plombes l'ambiance. Va-t'en, j'en peux plus, parce que j'ai tout essayé pour que tu aies envie de rester avec moi, t'as pas envie de rester. Et dans le texte, je fais référence à une citation de Montaigne qui disait, par rapport à des penseurs italiens de son temps, il y a une formule qu'il a empruntée qui disait Festina lente, hâte-toi lentement. Et hâte-toi lentement, c'est exactement la même idée que dans une chanson d'une chanteuse togolaise très célèbre qui s'appelle Bella Bello. Je lui ai consacré un chapitre entier dans ce texte-là. Le titre de la chanson s'appelle Bleu. Bleu, yemi ada pelo. C'est exactement hâte-toi lentement de rentrer à la maison. En fait, c'est comme mon hymne à moi. Hâte-toi lentement de rentrer, parce que c'est une façon de profiter du retour, parce que j'essaie d'avance que le retour, je ne retrouverai pas le pays que j'ai laissé derrière moi. Je retrouverai un tout autre pays où les enfants seront devenus adultes, certains adultes ne seront plus là. Ça aura totalement changé, parce que 10 ans, c'est long. Et le temps passe. Et quand le temps passe sur nos institutions, sur nos états mentaux, nous devons faire nos mises à jour. Voilà.
Parce qu'il faut assouplir l'idée d'identité. Puis même si on regarde tous les traditions religieuses ou spirituelles là, plus profondes, ils disent que dans le fond, faut l'identité, l'ego, c'est une illusion dans le fond. Il faut être dans le moment présent. Alors, si on s'attache trop à l'identité, on n'est pas dans le moment présent, on est dans le passé, quelque chose qui, comme tu dis, est en train de disparaître ou n'existe plus.
Ça existe toujours en crise, en fait, parce qu'on est toujours déficitaire, parce que c'est inatteignable, c'est un idéal inatteignable. C'est-à-dire l'idée, idem, d'être même, la racine, c'est ça, hein, idem, d'identité, être le même que ceux qui ont été ou être le même que soi-même. On n'est pas le même à 7 ans qu'à 77 ans. On a beaucoup changé entre-temps. Et on ne retrouvera pas ses jambes de 7 ans ou ses jambes de 20 ans quand on a 77, 97. Donc, c'est la même chose pour les collectifs. Mais on s'entretient dans certaines illusions, dans certaines... dans certaines fictions et dans certaines troncatures aussi, tu vois, pour dire bon voilà, on est toujours le même, même si on sait qu'au fond le Québécois de Duplessis, du temps de Duplessis, c'est pas le Québécois d'aujourd'hui, c'était pas le Québécois d'auparavant non plus, tu sais, d'avant la grande noirceur, le Québécois du moment de la fédération, le Canadien français qui s'appelait à l'époque, le Québécois c'est très récent, et il a été autre chose. Justement, tu sais, prenons l'histoire québécoise. Les Québécois arrivent ici comme des sujets du roi de France au début, hein, qui viennent établir des contacts commerciaux avec, pour le commerce de la fourrure et toutes sortes d'affaires.
Des colons. D'accord.
Des colons, bon, voilà. Et très rapidement, se met en place un projet de Nouvelle-France. Donc, ils commencent par des néo-français. Par après, ils se rendent compte que non, on n'est pas des néo-français, on est des Canadiens français. Et ensuite, désormais, on est devenus des Québécois. Rien ne nous interdit demain d'une nouvelle proposition d'identification, qu'une nouvelle proposition d'identification émerge pour essayer de proposer un autre récit collectif. Donc vous voyez, tout ça est un mouvement, rien n'est figé, il y a cette continuité, il n'y a pas d'opposition entre la continuité. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a, il y a des ruptures. Et tout cela participe à enrichir notre rapport au monde. Et si on ne réforme pas nos émotions d'habiter, nos émotions d'espace, on habite, je crois, très pauvrement la Terre, avec grand T désormais. Parce qu'on est rendu aujourd'hui à ce que beaucoup de penseurs appellent la condition planétaire, ou une sorte de condition terrestre, où désormais, avec les désordres écologiques qui s'annoncent à l'horizon, un battement d'ailes à l'autre bout du monde provoque une tempête ici. Et nous sommes pris dans une communauté de destin qui est une communauté de vulnérabilité associée au sort même de la Terre, et que dans ce monde-là, des gens vont bouger. Beaucoup de gens vont bouger. Il y a eu des vagues antérieures. Les Européens ont repeuplé le monde, hein, à partir de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique, de la conquête de l'Amérique, ensuite de l'Afrique, de l'Océanie. Ils se sont répandus un peu partout sur le monde parce qu'à cette époque-là, c'était la condition d'assurer leur survie et leur prospérité matérielle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui vont refaire ce genre de processus-là. Donc, et ce genre de déplacement massif engendre des bouleversements massifs. Donc l'état actuel de nos institutions va muter sur le très long terme ou très moyen terme si on veut, mais c'est inévitable.
On pourrait terminer en conclusion, parce que l'émission est terminée, que ça ne veut pas dire qu'on renie notre passé.
Absolument
mais,
pas.
Mais qu'on ait quelque chose de plus équilibré, qu'on s'identifie plus, je dirais, à la Terre.
Exactement. Ben, la Terre est désormais le pays natal de toute l'humanité, rassemblée désormais à l'échelle d'une espèce unique. Nous formons une seule humanité, nous avons un seul village natal qui s'appelle la Terre. Maintenant, si on part sur cette donnée-là, on peut recomposer de nouvelles façons de se déplacer, de nouvelles façons d'habiter, de nouvelles façons de se construire en rapport à l'espace.
Puis, dans le fond, notre origine à tous est la même. On vient tous d'Afrique.
Exactement. Nous sommes une espèce nomade qui a quitté l'Afrique et qui s'est répandue sur la totalité de la planète, la fameuse sortie d'Afrique. Donc, moi, dans mon texte, je parle de Homo sapiens nomadus. Redevenons Homo sapiens nomadus à certains égards pour accueillir l'impossible qui va nous arriver. C'est-à-dire l'imprévu d'avance. C'est-à-dire la catastrophe climatique. Et la catastrophe climatique, c'est ça notre horizon. Et nous devons anticiper cela en produisant un imaginaire, c'est ce que j'essaie de faire très modestement dans ce texte, en produisant des institutions qui puissent accueillir la pluralité des formes de vie.
Mais malheureusement, l'émission est terminée. Merci beaucoup.
Merci à toi, Jacques.
Très intéressant. Alors,